Rebonjour à ceux d'entre vous qui étaient avec nous ce matin donc pour ce premier webcast du Legal de PwC Société d'Avocats et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous vous accueillons donc avec plaisir pour les thématiques que nous allons développer maintenant. Comme je l'ai indiqué ce matin, je vous le redis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et nous tenterons bien sûr d'y répondre à l'issue de ce webcast et si toutefois ce n'est pas possible, nous reviendrons bien sûr vers vous. Nous allons accueillir maintenant le professeur Frédéric Danos, donc professeur des universités et of counsel au sein du cabinet. Frédéric Danos va nous présenter les grandes lignes des réformes à venir en matière de droit des sûretés et en matière de procédures collectives, thématique d'ailleurs que nous aurons l'occasion de vous présenter plus amplement à la rentrée. Donc Frédéric, bien je te laisse la parole pour nous la présentation de ces grandes lignes, des grandes réformes du droit.
Merci Suzy. En effet, donc l'année 2019 avait été une année de réformes pour le droit des affaires avec la loi Pacte et la loi de simplification du droit des sociétés. Et l'année 2021, en tout cas le second semestre de l'année 2021, devrait être aussi une année de réforme, puisque sont prévus deux textes assez importants qui devraient être pris par ordonnance. Tout d'abord, donc, un texte concernant une réforme du droit des entreprises en difficulté et le second qui concerne une réforme du droit des sûretés et donc qui vient moderniser le régime du droit des sûretés. Alors, concernant le premier texte qui devrait être promulgué au courant de l'été, concernant la réforme du droit des entreprises en difficulté, il s'agit d'une transposition de la directive du 20 juin 2019 qui tend à adopter et à modifier le régime des procédures dites de restructuration préventive. Alors, le terme est un peu imprécis puisqu'il est utilisé par la directive, mais dans le cas de la transposition, il a été précisé par le ministère de la Justice que ça serait une transposition à minima, mais qui va quand même néanmoins modifier assez substantiellement le droit des entreprises en difficulté. Le premier point, dans le cadre de ces mesures donc de modification des procédures de restructuration préventive, ça serait de modifier le régime de la sauvegarde et en particulier d'unifier et de fusionner le régime de la sauvegarde accélérée et le régime de la sauvegarde financière accélérée. Donc, ce régime unique de sauvegarde accélérée ne pourrait pas excéder une durée de 4 mois. La seconde mesure, et qui est peut-être la plus substantielle, c'est la création de classes de créanciers. Aujourd'hui, dans les procédures de sauvegarde et dans la procédure de redressement, au-delà d'un certain seuil, on peut créer des comités de créanciers qui sont des comités créés en raison de la nature de la créance. L'idée de la réforme, c'est que ces classes de créanciers, tout comme les comités de créanciers, doivent voter sur les plans qui vont être adoptés, plan de sauvegarde ou plan de redressement, et on considère qu'il vaut mieux les réunir en différentes classes qui tiennent mieux compte de leurs intérêts communs. Et dans le cas de ces classes de créanciers, il y aurait au maximum 4 classes de créanciers qui serait déterminé en fonction du rang de la créance. C'est-à-dire qu'il y aurait une classe de créanciers bénéficiant de garanties et de sûreté réelle. Une autre classe, les créanciers non garantis, c'est-à-dire les créanciers chirographaires. Éventuellement, une troisième classe, les créanciers subordonnés. Et une quatrième classe qui serait composée des détenteurs de capital. Et ça, c'est peut-être un point qui est fondamental, c'est que dans cette logique de la directive, l'associé ou l'actionnaire devient finalement un créancier super subordonné. Et c'est intégrer finalement de manière implicite les associés ou les actionnaires dans les catégories de créanciers, ce qui pourra justifier ensuite que dans le cadre des mesures adoptées, soit dans une procédure de sauvegarde, soit dans une procédure de redressement judiciaire, on puisse porter atteinte à leurs droits, et notamment à leurs droits sur les actions, dès lors qu'on veut favoriser ce qu'on appelle une reprise interne de la société avec l'entrée au capital d'un tiers. Donc, il semble qu'on ait dans le texte, à minima, 2 classes de créanciers, créanciers garantis et non garantis, et cette classe des détenteurs de capital, donc qui seront consultés pour l'adoption des plans. Dans le prolongement de cette création des classes de créanciers, l'une des mesures les plus énergiques et qui est inspirée d'ailleurs du droit américain et qui a été reprise dans la directive, c'est ce qu'on appelle l'application forcée interclasse. C'est donc l'idée que, donc le principe, quand il y a une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement, chaque classe de créanciers serait appelée à voter sur le plan qui va être proposé et qui devra être donc entériné par le tribunal. L'idée, c'est qu'on puisse passer outre le refus d'une classe, on appelle une classe dissidente, et que le plan proposé puisse être adopté, bien que l'une des classes se soit opposée à son adoption. Alors, cette application forcée interclasse devra être encadrée, puisqu'elle peut aboutir à des mesures très énergiques, et notamment porter atteinte aux droits des associés. Et dans cette hypothèse, il y a plusieurs garde-fous. Tout d'abord, le ministère prévoit que dans son texte, le débiteur aurait un droit de s'opposer à l'application forcée interclasse, tant en procédure de sauvegarde qu'en procédure de redressement judiciaire. Mais là, les modalités doivent être précisées, puisqu'il ne faut pas non plus ruiner l'efficacité des nouvelles mesures. Il faudrait en outre que pour qu'il y ait application forcée interclasse, qu'il y ait au moins une classe de créanciers qui ait voté en faveur de l'adoption du plan, et donc toutes les classes de créanciers, bien sûr, ne soient pas opposées à l'adoption de ce plan. Et il y a aussi l'application de ce qu'on appelle la règle de priorité absolue, c'est-à-dire que il faut que le plan pour lequel on ferait application forcée interclasse, le plan proposé respecte les rangs prioritaires de paiement des créances, c'est-à-dire qu'une classe supérieure ne doit pas être défavorisée au détriment d'une classe inférieure, c'est-à-dire par exemple des créanciers garantis qui seraient défavorisés par rapport aux créanciers non garantis. Et il faut aussi vérifier que le plan ne porte pas une atteinte disproportionnée aux créanciers, aux droits des créanciers dont la classe se serait opposée à l'adoption du plan. Le tout étant précisé que la création des classes et donc l'application forcée interclasse s'appliquera donc de manière obligatoire en sauvegarde accélérée et elle sera obligatoire en sauvegarde classique et en redressement. Au-delà d'un certain seuil, a priori, ça devrait être 4 millions d'euros de total de bilan et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 50 salariés. En deçà de ces seuils, donc en sauvegarde et en redressement judiciaire, la création des classes de créanciers et donc l'application forcée interclasse ne serait possible que sur accord et donc à la demande du débiteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle sur option du débiteur. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une logique très forte de réforme des procédures collectives et la volonté d'imposer plus facilement des mesures qui visent à restructurer la situation du débiteur, quitte d'ailleurs à sacrifier plus ou moins les droits des associés ou des actionnaires. Et d'ailleurs, il est prévu que dans le cadre des mesures qui devraient être accompagnées, si on doit voter des mesures de restructuration, si le débiteur est une personne morale, les associés ne pourraient pas s'opposer de manière déraisonnable à l'adoption d'un plan qui prévoit une restructuration interne du capital avec l'entrée de tiers et voire potentiellement l'éviction des associés ou actionnaires existants. Le tout doit être encore précisé par le ministère, puisqu'il faut quand même tenir compte du droit des actionnaires sur leurs titres sociaux, qu'on considère comme étant un droit de propriété. Mais intrinsèquement, on s'aperçoit que les associés et les actionnaires dans le débiteur en procédure collective sont de plus en plus traités comme des créanciers. Autre point qui est encore ouvert, c'est la possibilité pour le tribunal d'imposer un plan alors que les créanciers ou les classes de créanciers s'y seraient opposées. Et là aussi, c'est soumis à la discussion. La position du ministère de la Justice n'est pas figée sur ce point. Et la tendance serait qu'il y aurait une impossibilité pour le tribunal de faire adopter un plan s'il n'a pas été adopté par les créanciers en sauvegarde, mais ça serait possible en redressement judiciaire. Donc voilà les principaux axes de la réforme du droit des entreprises en difficulté avec ces mesures phares que sont la constitution de classes de créanciers et l'application forcée interclasse. L'autre texte qui doit être adopté, c'est en matière de droit des sûretés. Et la loi PACTE avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance. Et là aussi, il y aura une réforme du droit des sûretés, alors finalement, qui sera moins importante que ce qu'on pouvait le penser à la lecture des premiers projets. Et dans ce cadre, il va y avoir une rationalisation du cautionnement, dont le régime va être simplifié et uniformisé, avec intégration de la plupart des règles dans le code civil. Et on va enlever toutes les règles relatives au cautionnement qui figuraient dans le code monétaire financier et le code de la consommation, avec une protection accrue de la caution personne physique, en ce compris celui qui est le dirigeant personne physique, qui garantit les dettes de sa société et qui va bénéficier d'une protection très élargie en termes de mentions manuscrites, d'informations ou de protection en cas de cautionnement disproportionné et respect du devoir de mise en garde. Concernant les sûretés réelles, il va y avoir un toilettage du droit du gage. On va supprimer la plupart des gages spéciaux, gages du code de commerce, donc gages de stock, nantissement de matériel et outillage, qui était un gage de matériel et outillage, le gage de véhicule automobile, et on va rentrer la plupart des gages dans le gage de droit commun du code civil, qui va donc devenir vraiment le régime de droit commun de tous les gages, et donc ce qui évitera les complications avec la multiplication des sûretés spéciales. On va aussi améliorer le régime du nantissement de créances avec la possibilité de prévoir des nantissements successifs par ordre de date des actes, un droit de rétention au profit du créancier nanti afin de renforcer sa situation. Autre point sur le nantissement de compte titre qui va être aussi un peu modernisé, mais vraiment à la marge, avec là aussi la prise en compte officielle de pouvoir créer des nantissements successifs par ordre de constitution et d'acte, et donc par notification au teneur de compte. Autre point, la création en fait d'un régime de cession de créance à titre de garantie de droit commun, c'est-à-dire une cession fiduciaire, mais qui ne va pas rentrer dans le régime de la fiducie, et on va prévoir une cession de créance de droit commun à titre de garantie, une sorte de sur le modèle de la cession d'AI, mais étendue à toutes les créances et non pas uniquement les créances professionnelles qui seraient cédées au profit d'établissements de crédit. On veut aussi prévoir un régime de gage de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant le gage espèce, qui va être qui va trouver une consécration dans le code civil et qui, malgré son nom de gage, est une cession fiduciaire de monnaie, monnaie fiduciaire, afin de garantir le paiement d'une dette. En revanche, n'a pas été retenu le nantissement de monnaie scripturale, ce qui est dommage, parce que c'était une demande de la pratique, mais là, visiblement, ce régime a été écarté de la réforme. Et enfin, deux derniers points, quelques améliorations sur le régime de la clause de réserve de propriété et là aussi, une amélioration, une simplification du régime de la fiducie sûreté où on va faciliter les modalités de réalisation de la fiducie afin d'améliorer le régime de cette sûreté propriété. Ce qui est dommage, et ce sera mon dernier point, c'est qu'il était prévu normalement en matière de gage, justement pour avoir une certaine logique avec la fiducie sûreté, on devait valider la possibilité de réaliser une sûreté par application du pacte commissoire dans le cadre des procédures collectives lorsqu'on est en liquidation judiciaire, parce que finalement, ce n'est pas très différent de ce qui se passe pour les sûretés propriétés. Et là aussi, pour le moment, cette mesure qui devait permettre la mise en œuvre du pacte commissoire dans toutes les sûretés réelles classiques lorsqu'on est en liquidation judiciaire, cette mesure n'a pas été reprise. Voilà pour les principaux axes de ces deux réformes.
Eh bien, merci Frédéric d'avoir défloré ces grandes réformes et on aura l'occasion à la rentrée effectivement de les présenter plus longuement. Nous allons maintenant donc aborder notre quatrième grande thématique de la matinée sur le sujet des carve-out. Donc cette thématique qui sera consacrée aux aspects juridiques, fiscaux, sociaux et comptables, donc dans une parfaite pluridisciplinarité telle que nous l'avons donc au sein de PwC, de l'ensemble des opérations qui visent à recentrer sur son cœur de métier, donc les entreprises. Donc, on le sait que dans le contexte que nous avons vécu de crise sanitaire, beaucoup d'entreprises souhaitent se recentrer sur leur core business, se désengager d'activités qui sont aujourd'hui jugées non stratégiques. Donc, quels sont les moyens d'y parvenir? Quelles sont les contraintes inhérentes à ce type de restructuration? C'est notre équipe donc spécialiste de tous ces sujets qui va vous les présenter. Et donc, interviendront Thomas Bortoli, Katia Grusdova, Corinne Guyot-Chavanon et Bénédicte Lemot. Nous allons commencer par Thomas. Thomas, pourrais-tu nous exposer donc les principales manières de mener à bien une opération de détourage ou de carve-out?
Bonjour à tous. Selon la manière en fait dont l'activité dont on souhaite se séparer est exploitée, il existe de très nombreuses manières de mener à bien la séparation. Manière schématique, on peut en retenir principalement deux. La cession de fonds de commerce d'une part et d'autre part un appart partiel d'actifs suivi d'une cession.
Alors, dans ces deux méthodes, effectivement, donc, qui sont bien connues, quels sont les principaux points d'attention sur un plan juridique à garder en tête lorsqu'on procède à une cession de fonds de commerce?
La cession de fonds de commerce, c'est une opération qui est complexe hein, d'un point de vue juridique, principalement pour deux raisons, notamment quant à l'identification des éléments qui composent le dit fonds, et d'autre part en raison d'un régime législatif qui est extrêmement encadré et qui est défini au Code de commerce, aux articles L141.2 et suivants. En ce qui concerne les éléments composant le fonds, l'élément central et qui conditionne la possibilité de procéder à une cession de fonds de commerce, c'est le transfert effectif d'une clientèle réelle et non simplement potentielle. Outre cet élément, la cession de fonds emporte généralement également cession du non commercial, de l'enseigne, du matériel ou du droit au bail. Ce qu'il faut absolument garder à l'esprit et qui est un critère essentiel en fait, qui va conduire à choisir plutôt un carve-out structuré sous forme d'apport partiel d'actifs ou une cession de fonds de commerce, c'est que dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, sous réserve de quelques exceptions, notamment en matière sociale que Corinne évoquera, le transfert des créances, des dettes, des passifs et des contrats qui sont attachés à l'activité cédée n'intervient pas. Et ce, contrairement à ce qui peut se passer dans le cadre d'une cession de société. Du point de vue de son régime juridique, la cession de fonds de commerce doit se faire selon un formalisme précis qui doit être scrupuleusement respecté, parce que la loi édicte des sanctions qui peuvent être parfois très lourdes, pouvant aller jusqu'à la nullité de la cession. En premier lieu, il faut s'assurer que le fonds que vous envisagez de céder n'est pas situé dans un périmètre de sauvegarde. Si c'est le cas, et qu'il est donc situé dans un tel périmètre, il va falloir purger un droit de préemption de la commune, qui est d'une durée de 2 mois, et qui donne lieu à un formalisme qu'on doit respecter via l'envoi à la commune d'une déclaration d'intention d'aliéner. À côté de ça, il faut également bien évidemment se conformer aux dispositions de la loi Hamon en matière de respect des obligations d'information des salariés et éventuellement la consultation des instances représentatives du personnel. Si un écrit n'est pas obligatoire, en pratique, systématiquement, vous aurez affaire à un écrit qui peut être rédigé soit sous forme d'acte sous sein privé, soit sous forme d'acte d'avocat, soit enfin sous forme authentique. À noter que depuis le 21 juillet 2019, la loi n'impose plus de mention obligatoire au sein de l'acte de cession, contrairement à ce qui était le cas avant. Une fois signé, pratiquement, vous devez enregistrer votre acte de cession de fonds dans un délai de 15 jours qui suit la signature, et enchaîner dans ce même délai la publication dans un journal d'annonce légale de la cession, journal qui doit être situé donc du ressort dans lequel le fonds de commerce est situé. Et à côté de ça, il y a une publication au BODAC qui intervient à la diligence du greffier du tribunal de commerce, qui fait courir un délai d'opposition des créanciers d'une durée de 10 jours. Pendant toute la durée de la conclusion de la vente jusqu'à la purge du droit d'opposition des créanciers, concrètement, le prix de cession du fonds de commerce est indisponible. Et d'un point de vue pratique, il est même indisponible plus longtemps, puisque fiscalement, l'administration a 5 mois et demi pour poursuivre l'acquéreur du fonds qui est solidaire du paiement de certains impôts directs par le cédant. Donc, dans ce cadre, une mission de séquestre est généralement confiée à un tiers qui va demeurer séquestre du prix pendant une durée qui peut aller donc jusqu'à 5 mois et demi.
Très bien, merci. Merci Thomas pour ces aspects juridiques. Bénédicte, est-ce que nous pourrions compléter ce propos par les principales caractéristiques en matière comptable, donc une vente de fonds de commerce d'un point de vue comptable?
Bien sûr, bonjour à tous. Alors, sur le plan comptable, la cession de fonds de commerce doit être réalisée à la juste valeur, ce qui va conduire le cédant à constater une plus-value ou une moins-value avec un impact direct sur sa capacité de distribution. Pour l'acquéreur, ce qu'il faut savoir, c'est que le principal enjeu, c'est l'exercice d'allocation du prix global qui doit être mené lors de l'acquisition de ce fonds de commerce. Cette allocation doit conduire à évaluer et comptabiliser au bilan, selon leur nature, les différents éléments identifiables et séparables du fonds de commerce. Par exemple, stock, matériel, droit au bail, marque, fonds commercial, etc. Alors, pourquoi faut-il réaliser cette allocation ? Pour respecter les règles comptables, hein, bien sûr, mais il s'agit également d'identifier séparément les éléments amortissables, notamment les éléments incorporels amortissables, afin de permettre à l'acquéreur de déduire ensuite fiscalement le prix de son investissement via la déduction de cet amortissement, sous réserve, bien entendu, que cet amortissement soit déductible. Alors, l'objectif est en général de limiter autant que possible le coût d'entrée d'un fonds commercial dont la valeur doit ensuite faire l'objet d'un suivi rigoureux dans le temps via des tests de dépréciation annuelle systématique. Quelle est la principale difficulté de cet exercice d'allocation ? Eh bien, c'est l'identification individuelle des éléments incorporels, plus particulièrement les éléments qui sont liés à la clientèle, marque, liste de clients, portefeuille de contrat, etc. Donc, pour faire cette allocation, il faut mettre en œuvre une analyse précise des différents critères de comptabilisation qui sont imposés par le plan comptable général, notamment. Et dans ce cadre, on peut avoir recours à un expert évaluateur pour aider à déterminer la juste valeur individuelle de ces éléments. Pour finir, j'attire votre attention sur le fait qu'il peut être utile de sécuriser cette allocation en la prévoyant expressément dans le contrat de cession, et donc il faut à ce moment-là la prévoir en amont de l'opération.
Merci Bénédicte pour ces éléments comptables. Katia, je me tourne vers toi pour savoir comment fiscalement nous allons traiter cette opération de cession.
Merci Suzy. Effectivement, la cession du fonds de commerce peut être résumée autour de la fiscalité qui s'applique aux cédants et aux cessionnaires. Chez le cédant, tout d'abord, il sera imposé au taux de droit commun d'impôt sur les sociétés sur la plus-value de cession éventuelle et les bénéfices non encore taxés se rattachant à la branche d'activité cédée réalisée depuis la clôture de l'exercice précédent et jusqu'à la date de la cession. Un régime d'exonération d'impôt sur les plus-values est prévu pour les cessions de branches complètes d'activité réalisées par des PME qui remplissent certaines conditions, lorsque la valeur des éléments cédés ne dépasse pas 500 000 euros. Le cessionnaire, de son côté, devra acquitter les droits d'enregistrement sur le prix de cession du fonds au taux progressif de 3% pour la fraction du prix comprise entre 23 et 200 000 euros et 5% pour la fraction du prix qui excède 200 000 euros. La cession d'un fonds de commerce peut aussi avoir d'autres effets collatéraux pour le cédant et le cessionnaire. Chez le cédant, tout d'abord, les déficits fiscaux reportables liés à la branche cédée ne peuvent pas être transmis au cessionnaire. La cession d'une branche d'activité pourra même entraîner la perte du droit au report de ces déficits pour le cédant si elle se traduit par un changement d'activité et s'accompagne d'une diminution de plus de 50%, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif moyen et du montant brut de l'actif immobilisé par rapport à l'exercice précédent, celui du transfert. Chez le cessionnaire, bien que la cession d'un fonds de commerce n'entraîne pas le transfert de passifs fiscaux liés à la branche d'activité cédée, une solidarité de paiement est prévue, comme l'indiquait Thomas tout à l'heure, pour le paiement d'impôts sur les sociétés et la taxe d'apprentissage due sur les bénéfices réalisés par le cédant au titre de la branche cédée pendant l'exercice de cession. Cette solidarité est encadrée par la loi puisque le cessionnaire n'est responsable qu'à concurrence du prix de cession du fonds et elle ne peut être mise en cause que pendant un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration de résultat par le cédant relativement à la branche cédée, délai potentiellement ramené à 30 jours lorsque certaines conditions déclaratives et de paiement sont réunies.
Merci, merci Katia. Donc, nous avons les aspects juridiques, comptables, maintenant fiscaux. Il ne nous reste plus que les aspects en matière sociale d'une vente de fonds de commerce. Corinne, que peux-tu nous apporter comme éclairage en la matière ?
Merci Suzy. Alors, d'un point de vue social, l'effet le plus visible et central d'une cession de fonds de commerce est le transfert des salariés aux cessionnaires. La cession de fonds de commerce est une des opérations qui est couverte par le fameux article L1224-1, pour les plus anciens L1222 du Code du travail, qui prévoit le transfert automatique par l'effet de la loi des contrats de travail. En d'autres termes, le transfert et le changement d'employeur se font sans l'accord du salarié. Cette opération touche également le statut collectif qui va être mis en cause. Les accords collectifs tombent, ils ne sont plus applicables, mais quand même, on les fait survivre 15 mois et ils doivent être renégociés. Alors ça, il s'agit vraiment d'un point d'attention important si on touche à des accords, par exemple, qui sont structurels pour la vie de l'entreprise, comme la durée du travail, et notamment s'ils doivent être renégociés dans un climat social qui est un peu tendu. Les usages et les décisions unilatérales, c'est-à-dire ce qui n'est pas du contrat de travail ou de l'accord collectif, seront quant à eux transférés et continueront à s'appliquer. En outre, comme sur le plan comptable, et c'est aussi un des sujets qui prend un peu de temps à étudier dans ce type d'opération, il faut procéder au détourage, qui est consommateur de temps en effet, parce qu'il faut déterminer le périmètre exact de l'activité transférée. Alors, un fonds de commerce, en principe, c'est relativement circonscrit, mais on peut avoir quelques surprises du point de vue des salariés affectés ou non à l'activité portée par le fonds de commerce. Donc, on doit aussi déterminer les salariés qui y sont dédiés à 100% et les salariés qui sont partagés entre plusieurs activités. On pense aux fonctions support en particulier. Donc, l'expérience montre que cette étape demande de faire une revue détaillée car les intitulés de poste sur les bulletins de paye et dans le système RH ne sont pas toujours à jour et ne correspondent donc pas à l'activité réelle du salarié. Donc, il y a un petit travail, entre guillemets, de nettoyage parfois des bases RH à faire. Enfin, parmi les points clés, et ça, on en entend souvent parler, évidemment, figure la nécessaire information consultation préalable du CSE qui doit être terminée avant toute décision, régularisation d'actes qui emportent la cession. Le plus souvent, une note d'information qui explique les raisons du projet, ses modalités juridiques, son calendrier et les conséquences pour les salariés doit être adressée aux représentants du personnel. Cette note doit être préparée en étroite collaboration avec l'ensemble des experts impliqués, le droit des sociétés, le droit fiscal et le comptable, afin que la vue du projet soit complète et surtout cohérente. Alors, vous l'aurez compris, la préparation d'un tel projet doit se faire en équipe, que ce soit sur le calendrier des chantiers à mener, avec les bons interlocuteurs et responsables en charge de chacune des actions, et le travail sur le rationnel du projet qui sera décliné, certes auprès du CSE, mais aussi auprès des salariés dans le cadre d'un plan de communication interne.
Merci, merci Corinne et merci à tous les quatre donc sur ces développements relatifs à la cession de fonds de commerce. J'aimerais maintenant que nous puissions nous pencher sur la deuxième grande méthode de détourage, celle réalisée sous forme d'apport partiel d'actifs. Donc Thomas, d'un point de vue juridique, comment cela se structure-t-il ?
Généralement, c'est effectué en fait par la combinaison de deux opérations successives. En premier lieu, donc le groupe cédant va procéder à une filialisation au travers d'une mécanique juridique dont je vais parler un peu plus longuement, qui est celle de l'apport partiel d'actifs de l'activité dont elle souhaite se séparer, et elle va apporter donc cette activité à une société ad hoc, qu'elle va ensuite céder au repreneur. Vous avez donc bien deux étapes, un apport, deux cession. L'apport est généralement placé sous le régime juridique des scissions qui est prévu à l'article L236-6-1 du Code de commerce, ce qui emporte une conséquence juridique importante, la transmission universelle du patrimoine qui est attachée à l'activité filialisée, sous réserve bien évidemment que cette activité puisse être qualifiée de branche complète d'activité. C'est une notion qui est plus économique que juridique. L'idée sous-jacente, c'est qu'on doit apporter en fait tous les actifs et tous les passifs qui permettent à l'activité concernée d'être opérée de manière totalement autonome et distincte de, des autres actifs et passifs de la société apporteuse. C'est la notion anglo-saxonne de standalone basis. Dans ce cas-là, l'effet principal de l'apport est que donc il y aura une transmission universelle du patrimoine attaché à l'activité apportée de la société apporteuse à la société bénéficiaire. Comme l'a plus précisément indiqué la Cour de cassation, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport. Là où, comme je vous le disais tout à l'heure, la cession de fonds de commerce est limitative dans sa dévolution d'actifs et n'opère pas transmission de passifs sous réserve de quelques passifs sociaux, l'apport partiel d'actifs, lui, a au contraire un caractère maximaliste. Tout ce qui est relatif à la branche apportée, que ce soit mentionné ou non dans le traité d'apport, sera transmis lors de l'opération. C'est cette raison pour laquelle, généralement, c'est cette manière d'opérer qui est privilégiée, puisque ça permet à la fois de filialiser les actifs, mais aussi les passifs. Attention, l'effet n'est pas absolu. On connaît quelques exceptions, notamment tout ce qui concerne les autorisations administratives, les contrats conclus in situ personae, les contrats qui prévoient des stipulations expresses relatives à leur non-transférabilité, etc. C'est un peu la raison pour laquelle ces opérations d'apport partiel d'actifs sont complexes, nécessitent une intense préparation et, comme Corinne l'a dit, l'intervention de différentes spécialités qui vont du droit des sociétés au droit social, au droit fiscal et en passant par la comptabilité. Parce qu'il faut d'abord définir précisément la branche complète d'activité et identifier les éléments qui la composent. Deuxièmement, gérer en amont les difficultés qui peuvent être liées au caractère non transmissible de certains éléments. Et enfin, déterminer les conditions économiques, parité d'échange, notamment de l'opération. Enfin, un point à conserver à l'esprit, sauf mention contraire dans le traité, la société apporteuse demeure solidaire de la société bénéficiaire à raison des actifs et passifs apportés. Donc, dans le cadre d'un carve-out, il est essentiel d'exclure cette solidarité au niveau du traité d'apport. Concrètement, les modalités de réalisation méritent d'être précisées. En premier lieu, on conclut un contrat qu'on appelle traité d'apport partiel d'actifs entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport qui viennent préciser les caractéristiques principales de ce dernier. Quelle va être la parité d'échange? Quels sont les comptes de référence? Quels seront les éléments apportés? La rémunération, etc. Bien évidemment, préalablement à la conclusion d'un tel document, les instances représentatives, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, les instances représentatives du personnel devront avoir été consultées. Une fois que le traité est conclu, on doit déposer ce dernier auprès des greffes, des tribunaux de commerce, des sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports, et les greffiers transmettent alors les éléments au BODAC, à compter de la publication au BODAC, délai d'opposition des créanciers de 30 jours, qui dispose donc de cette période pour former une éventuelle opposition, étant toutefois précisé qu'une opposition dans le cadre d'un apport partiel d'actifs ne fait pas obstacle à la réalisation de ce dernier. On la purge ensuite, mais ça n'empêche pas la réalisation de l'opération. En parallèle de ce délai d'opposition des créanciers, des missions de contrôle visant à protéger les sociétés des sociétés participants sont menées par des professionnels du chiffre qui interviennent en qualité de commissaire à la scission ou aux apports. Dans certaines hypothèses, on peut limiter tout ou partie de leur intervention, mais dans le cadre d'un carve-out, on conseille généralement d'avoir des missions, je dirais, de plein exercice de la part de ces professionnels du chiffre, parce que ça apporte du confort sur les éléments financiers qui sont fixés dans le cadre de l'apport et qui donc conditionnent derrière la vente également aux tiers cessionnaires. À l'issue du délai de position des créanciers, les associés des sociétés concernées statuent sur l'apport, qui est ensuite publié dans un journal d'annonce fiscale. Le régime que j'ai très succinctement décrit peut être simplifié et varié un petit peu, notamment lorsque la société apporteuse détient entre la date de signature du traité et la réalisation de l'opération de manière continue 100% du capital de la société bénéficiaire de l'apport. À l'issue donc de cette filialisation, une fois qu'elle est opérée, la société apporteuse va céder la société bénéficiaire de l'apport au tiers repreneur, ce qui donne lieu aux problématiques et négociations habituelles dans le cadre de cession d'une société, garantie de passif et autres.
Merci Thomas. Pour compléter donc ces aspects juridiques, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les aspects comptables de ce type d'opération?
Oui, bien sûr Suzy. Alors sur le plan comptable, on va s'interroger sur la valeur à retenir pour transférer les actifs et passifs. Et cette valeur, elle dépend de la façon dont vont s'enchaîner les deux opérations d'apport d'une part, de cession d'autre part. Si lors de l'apport, la porteuse s'est engagée à céder à un tiers les titres qu'elle reçoit en rémunération des apports et que du fait de cette cession, elle perd le contrôle de la société bénéficiaire des apports, bien l'opération est qualifiée d'apport-cession. Et dans ce cadre, les actifs et passifs sont à évaluer à la valeur réelle et ce, de manière individuelle. En revanche, si l'apport est réalisé en vue d'une cession future à un tiers, mais sans que ce dernier soit identifié à la date de l'apport, eh bien, les actifs et passifs devront être transférés à la valeur comptable. Donc, vous l'avez compris, hein, ce n'est que dans le premier cas, c'est-à-dire quand on fait l'apport à la valeur réelle, que la société qui réalise le carve-out constatera une plus ou moins-value à la date de l'apport, et cette plus ou moins-value venant évidemment modifier sa capacité de distribution. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce type d'opération est plus complexe à mettre en œuvre qu'une cession de fonds de commerce, sur le plan comptable en tout cas, puisqu'il va imposer à la société apporteuse d'allouer précisément à la branche d'activité la totalité des actifs et des passifs qui lui sont rattachables, et ce, pour qu'elle soit qualifiée de branche complète d'activité qui soit autonome, pour des raisons juridiques que vient de vous rappeler Thomas et pour des raisons fiscales dont va vous parler Katia. Et cette allocation, elle est plus complexe que pour une cession de fonds de commerce. Alors, sur le plan comptable et opérationnel, cette allocation, elle est très consommatrice de temps. Elle repose largement sur la comptabilité analytique, mais elle peut imposer de déterminer des clés d'allocation arbitraires, ce qui peut être complexe en pratique. Avec le risque, si on choisit des clés d'allocation qui soient trop arbitraires, de remettre en cause la qualification de branche complète d'activité et que fiscalement, on encourt des risques en cas de contrôle. Alors, en outre, l'apport de la branche complète d'activité impose de gérer le transfert des données dans les systèmes, à la fois comptables et de gestion, et de s'assurer de la capacité des deux entités à enregistrer les opérations dans le nouvel environnement, avec, encore une fois, en ligne de mire, les enjeux fiscaux qui sont liés cette fois au fichier des écritures comptables et au contrôle fiscal des comptabilités informatisées. Alors, à ces difficultés opérationnelles qui sont liées à la transcription des apports, à la valorisation, s'ajoute un sujet, celui de leur rémunération. En effet, comme nous l'a dit en général, la société bénéficiaire va émettre des titres pour rémunérer les apports qu'elle reçoit. Et ce nombre de titres à émettre est déterminé sur la base d'un rapport d'échange ou, communément pratique, appelé parité. Ce rapport d'échange est généralement calculé sur la base des valeurs réelles, à la fois de la branche apportée et de la société bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'opération est réalisée à la valeur comptable, à titre de simplification, les valeurs comptables peuvent également être retenues pour déterminer cette parité dans le cadre d'une tolérance fiscale et en respectant strictement un certain nombre de conditions. Attention, parce que en dehors de cette tolérance administrative, retenir les valeurs comptables pour calculer le rapport d'échange, notamment parce que l'opération réalisée intra-groupe et qu'aucun majoritaire actionnaire minoritaire, ne pourrait être lésé au moment de l'apport, eh bien, retenir cette valeur comptable pour le rapport d'échange fait courir un risque sur le plan fiscal. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé récemment le Conseil d'État dans un arrêt Lafarge.
Merci Bénédicte. Donc, tu as parlé des aspects fiscaux. Katia, pouvons-nous continuer sur ces sujets en matière fiscale qui sont au cœur des opérations de détourage ?
Effectivement, donc, outre les quelques éléments déjà mentionnés par Bénédicte, la fiscalité est un élément important au sens large à analyser dans le cadre des opérations de carve-out. Et en matière d'impôt sur les sociétés, plus particulièrement, se pose la question de la possibilité, mais aussi de l'opportunité, de placer l'opération d'apport en préalable sous le régime de faveur des fusions et apports partiels d'actifs prévu aux articles 210 A et B du Code général des impôts. Donc, je rappelle qu'à défaut d'option pour ce régime de faveur, une société qui réalise un apport partiel d'actifs se trouve placée sous le régime de droit commun de cessation partielle d'activité, qui se traduit notamment par l'imposition immédiate des plus-values réalisées à l'occasion de l'apport. Le régime de faveur permet d'éviter cette conséquence. Mais ce régime ne peut s'appliquer de plein droit, c'est-à-dire sans agrément préalable, que si l'apport porte sur une branche complète et autonome d'activité, c'est-à-dire un ensemble des éléments d'actifs et de passifs d'une division d'une société qui constitue, du point de vue de l'organisation de l'entreprise, une exploitation autonome, capable de fonctionner par ses propres moyens. L'apport doit donc comprendre tous les éléments d'actifs et de passifs liés directement ou indirectement à la branche apportée, ainsi que le personnel affecté à cette branche. Dans l'hypothèse où le projet de cession hors groupe et son horizon temporel ne sont pas clairement définis au moment de la filialisation de la branche d'activité destinée à être cédée, la société aura généralement intérêt à placer l'apport sous le régime de faveur. En effet, lorsque l'apport doit être transcrit sur la base des valeurs comptables, l'application du régime de droit commun des cessations partielles d'activité entraînera l'imposition immédiate chez la porteuse des plus-values latentes afférentes aux actifs apportés, alors même qu'aucune plus-value n'est dégagée en comptabilité. Toutefois, si la porteuse dispose de déficits fiscaux reportables qui pourraient tomber en non-valeur suite au changement d'activité résultant de l'opération de filialisation, il peut aussi être plus pertinent pour elle de renoncer au régime de faveur afin de compenser ses déficits avec la plus-value d'apport. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'apport-cession et que l'apport est transcrit en valeur réelle, l'application du régime de droit commun à l'opération d'apport initiale permettra d'éviter la double imposition économique qui caractérise les apports partiels d'actifs placés sous le régime de faveur en droit français. En effet, en cas d'option pour le régime de faveur, la porteuse devra calculer la plus-value de cession ultérieure de titres reçus en rémunération de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient dans ses propres écritures. À cette taxation, lors de la cession des titres reçus en rémunération de l'apport par la porteuse, s'ajoute l'imposition supportée par la bénéficiaire de l'apport, qui devra de son côté, lorsque l'apport est réalisé en valeur réelle, rapporter à ses résultats imposables les plus-values d'apport constatées sur les biens amortissables et calculer la plus-value de cession ultérieure des biens non amortissables par référence à la valeur fiscale qu'ils avaient dans les écritures de la société apporteuse. Il convient de rappeler également que lorsque la cession au profit d'un tiers n'est pas réalisée in fine et que l'apport en préalable d'une branche complète d'activité a été placé sous le régime de droit commun, l'administration permet aux parties de revenir sur le choix du régime fiscal initial et accepte qu'elles puissent opter rétroactivement pour le régime de faveur pour l'opération d'apport initial sous certaines conditions. Donc, l'opportunité d'appliquer ou non le régime de faveur à l'opération d'apport d'une branche complète d'activité doit donc faire l'objet d'une analyse approfondie en tenant compte de l'ensemble de ces considérations fiscales. Et pour finir, je précise juste qu'en matière de droit d'enregistrement, les apports partiels d'actifs portant sur les branches complètes d'activité sont en principe enregistrés gratuitement. Donc voilà en quelques lignes sur les aspects à analyser dans le cas d'un carve-out.
Merci Katia pour cet éclairage en matière fiscale. Corinne, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux en conclusion nous donner quelques éléments d'un point de vue du droit social?
Oui, bien sûr, Suzy. Alors, concernant l'apport partiel d'actifs, la première question qui doit être posée est celle de l'application ou non de l'article L1224-1 dont on a parlé précédemment, et donc celle du transfert automatique des contrats de travail ou non. Nous avons vu que pour le fonds de commerce, la question ne se posait pas car la cession d'un fonds était couverte par l'article L1224-1. Cela n'est pas nécessairement le cas pour un apport partiel d'actifs, d'où la nécessité de l'analyse à faire en tout premier lieu. Alors, pour mémoire, et c'est important de le garder en tête, en cas de non-application de cet article, le transfert des salariés devra être opéré par un accord tripartite qui va requérir l'accord préalable du salarié. Il s'agira évidemment de traiter les éventuels refus de transfert, et notamment le cédant devra conserver le salarié dans ses effectifs. L'analyse, encore une fois, transfert automatique ou non, doit impérativement être menée en commun avec le droit fiscal et des sociétés pour s'aligner sur les qualifications, notamment la branche complète d'activité. Si le droit fiscal conclut à une branche complète d'activité, il est probable que l'article L1224-1 du Code du travail soit applicable. Dans le cas contraire, il faudra évidemment le justifier, toujours en lien avec le droit fiscal. Pour le détourage et la procédure d'information-consultation, honnêtement, cela reste très similaire à la cession d'un fonds de commerce. Simplement, le détourage est parfois un peu plus compliqué parce que c'est moins clair que pour le fonds de commerce. C'est également similaire en ce qui concerne le statut collectif. Ce n'est pas similaire s'il s'agit d'un transfert volontaire, car aucun des éléments du statut collectif n'est transféré, pas même pendant une période provisoire. Donc voilà, en quelques mots, le cadre juridique du transfert en cas d'apport partiel d'actifs. Et encore une fois, je me répète, mais c'est fondamental, il convient de travailler vraiment en synergie et en intégration avec toutes les équipes et toutes les matières impliquées dans ce type d'opération.
Merci à tous les quatre pour vos interventions qui nous ont donné donc cet éclairage sur les modes d'organisation du détourage lorsque l'on souhaite recentrer son activité sur son core business.